Donc vous êtes bien dans l'émission
La Fabrique
d'un autre monde possible, émission d'Attaque Toulouse en collaboration avec Campus FM. Tant que nous sommes bien sur 94 MHz, il est 17h et donc c'est l'émission mensuelle de tous les deuxièmes lundis du mois. C'est Jean-Michel au micro, donc d'Attaque, et nous sommes avec Majid, avec
tout à fait.
La technique. Bonsoir Majid.
Bonjour à tous.
Et ce soir on va faire une émission... qui est un peu particulière parce qu'elle va parler des médias, justement. Les médias, et une citation pour introduire cette émission qui est d'Alfred Sauvy, qui est « Un homme bien informé est un citoyen et un homme mal informé est un sujet ». Donc c'est un beau thème pour cette première émission de l'année 2013. Et avec moi ce soir, on est nombreux autour de la table. Il y a Jean-Louis d'Attaque également. Bonsoir Jean-Louis. Il y a Renaud d'Attaque également.
Bonjour. Salut.
Donc on a préparé l'émission tous les trois. Et puis on a deux invités. On a Jérôme du PAF. Des indignés du PAF, pardon.
Exactement.
Bonsoir Jérôme.
Bonsoir.
Et Bayrem d'Acrimed Toulouse.
Oui, bonsoir et bonne année à tous. Acrimed, antenne locale Toulouse.
Voilà. Donc super, on a... On est cinq autour de la table, il y a un sujet extrêmement dense, vous vous en doutez, pour parler des médias. Et alors habituellement, on a une petite partie brève en introduction. On a parlé les émissions précédentes, là, c'est un petit peu un suivi des rendez-vous nationaux, le combat contre l'austérité, Notre-Dame-des-Landes, la transition énergétique. On n'a pas noté grand-chose, probablement dû au fait, sur les actualités. Mais bon, j'imagine que les réseaux, que les sites internet, etc. sont actifs toujours. Donc tenez-vous au courant, nous on n'a rien à mentionner sur ces brèves-là pour ce mois-ci. Et donc on va attaquer directement le thème des médias. En introduction, peut-être on va commencer par parler de qu'est-ce que c'est que l'information. Qu'est-ce que l'information ? Alors on a fait des micro-trottoirs, enfin c'est plutôt Renaud qui a fait des micro-trottoirs pour nous aider à aborder ce thème-là et voir comment les gens, à Toulouse notamment, les jeunes et les moins jeunes, abordent le thème des médias et qu'est-ce qu'ils pensent des médias auxquels ils ont affaire.
Voilà, donc on est allé avec un ami en ville faire un micro-trottoir pour avoir l'avis des citoyens sur les médias. Donc on a posé tout simplement quatre petites questions assez courtes qu'on va entendre au cours de l'émission, ça va structurer l'émission. Donc des questions autour des médias pour avoir tout simplement l'avis des citoyens sur ce sujet qui nous paraît important. Donc on est allé à l'université de l'Arsenal, on est allé à Sciences Po et ensuite on a fait une deuxième partie dans le centre-ville de Toulouse autour du Capitole où on a interviewé en tout une quinzaine de personnes donc qui ont donné leur avis. On va les écouter, ça nous permettra aussi de construire l'argumentation et l'émission. Donc, on peut peut-être lancer le micro-trottoir numéro 1.
Donc, on aurait aimé savoir pour vous si c'était important de se tenir informé de l'actualité et si oui, par quels moyens ?
Oui, c'est important de se tenir au courant de l'actualité parce qu'il y a des choses qui peuvent me concerner de mon premier chef. Et par quels moyens ? Par les médias, que ce soit des médias plus officiels ou des médias plus libres ou plus alternatifs ou par le biais de son entourage, quoi, qui des fois nous relate des informations qu'eux auraient eues à travers des réseaux sociaux ou d'autres types de médias et qu'on aurait été ultérieurement, quoi.
Moi, je regarde pas la télé, je lis pas les journaux, j'écoute pas la radio. Je m'informe, j'aime pas m'informer par rapport à ce qu'il y a parce que, on nous manipule un peu quand on nous dit ce qu'ils veulent nous dire. Donc, je pense que c'est pas de la réelle information, quoi. Donc, voilà, donc j'essaie pas trop de m'informer. Je préfère voir par moi-même les choses, c'est mieux.
Le meilleur moyen pour moi aujourd'hui, c'est Internet. Toute l'information est sur Internet et c'est le meilleur moyen quand on travaille ou quand on est étudiant pour avoir accès de manière illimitée à toute une série de sources d'informations.
Nous, personnellement, c'est les journaux gratuits qu'on a dans le métro, mais sinon Le Monde, parce que bon, c'est soi-disant celui qui est le plus complet, quoi.
Je pense qu'il faut surtout penser à varier les moyens de s'alimenter en information, parce que la télé, c'est bien. Mais c'est pas suffisant. Il faut aussi avoir, je pense, une approche avec la presse écrite, parce qu'elle est souvent plus complète, plus sérieuse entre guillemets sur certains points, etc. Et après, évidemment, enfin, la radio qui apporte aussi une approche différente de l'information.
Bah, moi, je m'informe pas trop, mais sur Facebook, parfois, il y a des potes ou mes frères qui postent des trucs intéressants. Et du coup, je vais voir et c'est sympa. Mais sinon, à part ça, je regarde pas la télé, j'écoute pas trop la radio non plus. Enfin, pas grand chose.
Et bah, surtout par les journaux, parce que je sais pas, la télé pour moi, ça trouve un point de vue un peu orienté, mine de rien. Mais quand même, je regarde, enfin, je me fie quand même aux actualités de la télé.
Tous les moyens sont bons, internet, journal, radio, télévision aussi. Donc voilà, je pense que tous les moyens sont bons.
Ah oui, bon, c'est une évidence que c'est important de se tenir informé. Alors les moyens, il faut entrecouper, quoi, parce qu'aujourd'hui on est surbooké d'informations. Et il ne faut pas rester sur une seule chose, quoi. Et après, il faut se faire ses propres idées en lisant et en écoutant les gens. On a le choix quand même de choisir ce qu'on veut, quoi. Voilà, bon, après, je pense qu'il n'y a pas de remède, ni une personne qui détient la vérité, puisque aujourd'hui, les trois quarts des choses sont fausses, maquillées, que ce soit l'image, la parole, le son, comme on veut, quoi. Les nouveaux outils permettent des choses qui étaient moins utilisées avant, quoi. Enfin bon, c'est pas nouveau, quoi. Même les journalistes qui écrivaient dans les journaux internationaux, souvent nous ont raconté des cracks, quoi. Et qu'à lire l'histoire, quoi.
Bien. Tout est dit, hein. C'est très varié, c'est très intéressant. Les gens ont une position assez critique finalement vis-à-vis des médias, on se rend compte. Mais là, je sais pas ce que vous en pensez, s'il y a des commentaires.
Ben, je pense que si, il y a des commentaires à faire sur ce qui ressort notamment sur certains médias, parce que ce qu'on n'a peut-être pas encore tout à fait, c'est de dire que il y a la télévision, il y a la presse, il y a Internet, et que on voit bien là, pour commencer, que la télévision a une crédibilité quand même assez réduite dans l'ensemble de ce qu'on en vient d'entendre.
Ce qui semble net, c'est que l'importance de l'information est partagée par l'ensemble des gens interviewés. Ça, c'est un point extrêmement net.
Et il y a un autre point aussi qui est sorti, c'est qu'il y a énormément de sources d'informations. C'est ça aussi qu'on a entendu à l'instant. C'est, oui. Il y a les gratuits, il y a tout ce qui est radio, télévision, internet. Donc il y a aussi ce sentiment qu'on est envahi d'informations en flux continu même. Ce n'est plus, c'est-à-dire à n'importe quel moment, on a une information qui arrive. Et j'ai l'impression que les gens, même si ils consomment entre guillemets cette information, là ils sont méfiants. C'est ce qu'on a entendu dans les interventions à l'instant. Ils sont méfiants. Donc le but, c'est un peu aussi de, en tout cas nous, je parle de notre association, hein, ACRIMED, Action Critique Média, c'est de structurer un peu cette critique, c'est-à-dire qu'il y a un sentiment de méfiance vis-à-vis de l'information, des médias. Donc le but, c'est de la structurer, donner des outils aux gens pour qu'ils puissent comprendre d'où l'information elle vient, comment elle est fabriquée, etc. Mmh.
Tout à fait. Moi, j'avais noté une citation d'Hervé Kempf, qui est un journaliste, hein, qui a écrit « L'oligarchie, ça suffit, vive la démocratie ». Et il a parlé un petit peu de la citoyenneté et comment se construit la citoyenneté et quelle est la part de l'information là-dedans. Et il avait dit, dans tous les textes qui réfléchissent à la démocratie, la notion d'égalité est fondamentale. Chacun a un droit égal à la parole. Pour autant, cette sagesse du peuple n'est pas innée. Elle se forme dans la délibération, dans la confrontation, dans l'écoute. Et c'est par cette délibération que les folies et les égoïsmes des uns et des autres sont canalisés vers le bien commun. On revient ici sur la notion d'apprentissage. Et Hervé Kempf, en effet, fait surgir trois... Oui, il y a trois principes fondamentaux qui sont abordés là, qui est la formation à l'exercice de la citoyenneté. Donc une formation. Le partage, le débat, la confrontation, et ensuite la délibération et les choix. Et finalement, tout ça revient à dire que l'information, elle intervient sous ces différents aspects, à travers, un, le développement de qualités spécifiques particulières à chacun, de ses moyens de compréhension, de ses moyens de perception, de sa base de connaissances, finalement.
Comme un des éléments de formation de l'opinion.
Tout à fait. Mais aussi...
Mais un des éléments.
Comme la perception du monde. C'est à la fois le développement des connaissances de chacun, mais aussi le développement de la perception du monde et comment le partager.
D'accord.
Et voire même de pouvoir, entre guillemets, fabriquer l'opinion. C'est-à-dire que là, à partir du moment où on donne une information...
Coup, ça te donne la capacité de pouvoir la fabriquer.
C'est the dark side.
Ça te donne la capacité de la fabriquer, mais aussi d'orienter ton opinion publique pour que tu puisses après guider le débat dans le sens où tu veux, et là on a plein d'exemples sur le sujet. Mais après, effectivement, à la base, les médias, l'information, et comme elle doit être prise par les médias, ça doit être un moyen d'éducation, voilà. Débat. C'est à la base, c'est en théorie, ça devrait être ça.
J'ai une question, moi. Excusez-moi, je suis là. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un défaut, tout simplement, des institutions, notamment au niveau de l'éducation, à partir du moment où on avoue, en fait, que c'est un outil de formation et que l'objectivité, l'aspect critique, en fait, commence dès le plus jeune âge? Est-ce que c'est pas aussi, il n'y a pas aussi un défaut, en fait, de cette institution qu'on appelle l'école, qui n'apprend pas peut-être dès le plus jeune âge à avoir un aspect critique des choses? Et ce que tu disais, Jean-Michel, par rapport à comment on interprète son
à la construction de la citoyenneté. Oui. Bah oui. Bah là, l'école en fait partie. Après, l'école, elle apporte des briques. Le champ parental, familial, évidemment aussi. Mais c'est, tout ça, c'est insuffisant. Et chacun doit se construire son bagage.
On pourrait penser aussi que l'enseignement maintenant devrait s'intéresser de très près à ce que c'est que l'image en général. Là, je parle de la télévision, bien entendu. Mais de faire qu'il y ait une filière image, purement, et non pas simplement artistique aujourd'hui de ce qu'on voit dans l'éducation nationale, mais qu'est-ce que l'image? Et l'image, donc l'image animée, l'image vidéo, et l'apprentissage aussi de comment on fait l'image, comment on produit l'image, qu'est-ce qu'on peut en faire, et en effet, à partir de là, d'avoir un œil plus critique, connaissant un petit peu comment on peut effectivement produire de l'image et produire des documents, de quelle manière on les fait.
Ça fait probablement partie de la formation d'un citoyen, oui. Jérôme, tu veux
oui,
dire
non, la formation est toujours subjective. Dans le micro-trottoir, c'était intéressant d'entendre qu'au final, les citoyens se posent la question, se méfient de ce qu'ils voient, entendent et lisent. Donc, il faut leur apprendre à décrypter l'information. C'est vraiment ça. Les photos qui illustrent les articles, par exemple, il y a un choix éditorial qui est fait. Comment ce choix est fait? Est-ce qu'il est fait pour vendre? Est-ce qu'il est fait pour appuyer sur une actualité particulière, etc. Le pire serait de croire que l'information est neutre en définitive.
Bien sûr. Ouais. Il y a deux choses dans ce qu'on a dit. Il y a l'information qui est l'information brute, on va dire. Et il y a les médias qui sont en fait le vecteur. Est-ce que c'est le seul vecteur, les médias, finalement? Moi, je me pose la question, est-ce qu'on a d'autres moyens pour acquérir de l'information en tant que citoyen autonome que passer par les médias? Est-ce qu'on peut aussi, à travers les débats, à travers les discussions, à travers des associations, à travers plein de choses, on a plein de moyens à côté d'élargir finalement son champ d'investigation, son champ de perception, son champ de communication. En fait, c'est ses capteurs vers le monde, quoi. Est-ce que les médias sont le seul lien avec le monde ou pas? C'est important, je trouve.
Après, on a eu l'exemple d'une personne qui parlait de sa famille aussi. Donc ça peut être aussi une information qui vient par le canal familial. Donc là, c'est des gens en fait qui vivent, qui vivent l'information au jour le jour. C'est-à-dire, je suppose si quelqu'un, il a par exemple son frère qui est prof ou son frère qui travaille, je sais pas moi, dans l'aérospatial, parce que je travaille dans l'aérospatial, il peut lui donner l'information brute sur ce qui se passe exactement. Donc il y a le canal familial, mais aussi il y a le canal associatif, où là c'est plus les médias alternatifs, on va dire, qui peuvent donner une autre vision de la chose, où on donne la parole, en fait. Ça qui est important aujourd'hui, c'est que on a l'impression qu'il y a une parole qui est confisquée, et qui est, parce que elle n'existe pas dans les médias, ça veut dire que forcément,
elle n'a pas la valeur.
Elle n'a pas de valeur, voilà. Donc, a priori, le fait d'avoir des médias alternatifs, ça devrait justement donner une balance plus équilibrée, juste pour que justement il y ait l'éducation d'un côté, et revenir à la question de Magid. Donc il y a l'éducation et les médias qui devraient être complémentaires de ça, et d'avoir comme ça d'exercer sa citoyenneté. On va dire en étant conscient de tout ce qui nous entoure, dans tous les
lieux. Moyen, en fait, c'est un terme qui donc, média, c'est un terme qui veut dire moyen de diffusion. Et en fait, on est tous moyen de diffusion. Oui. Lorsque là, on est en train de parler entre nous, en fait, on diffuse des idées et donc de l'information. Et en fait, c'est vrai qu'on est tous, en tant que citoyens, et on revient sur la problématique de la citoyenneté, diffuseurs d'information, diffuseurs de médias.
Voilà. Moi, je crois que c'était important de le rappeler parce que par rapport au micro-trottoir, c'est bien de signaler qu'à côté des médias, finalement, il y a tous les autres champs d'investigation, de communication, d'échange entre citoyens qui interviennent aussi. Et il est important d'avoir en tête comment donner de la valeur à toutes ces paroles-là de façon hiérarchisée, quoi, finalement.
Il faut peut-être aussi serrer information et information, parce que quand on dit ça, en effet, on peut penser qu'il y a plusieurs canaux, mais pensons aussi que par type d'information, catégorie d'information, je vois mal, par exemple, comment peut-on, par des réseaux alternatifs, obtenir des informations en premier lieu de ce qui se passe en matière de politique, par exemple,
étrangère,
au plus haut niveau, ou étrangère, par exemple.
Oui, il y a des exemples comme ça.
C'est
vrai que les milieux familiaux ou voisinage, c'est peu adapté.
Voilà, donc il faut peut-être serrer les choses pour dire que oui, bien sûr qu'il y a une importance du tissu de l'ensemble de la population qui a des choses à dire, mais elles ne sont pas du même type, tout à fait, qu'un certain nombre d'informations qui vont être, par exemple, qu'est-ce qui se passe au Mali en ce moment, puisque c'est dans l'actualité, par exemple. Ou qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas où, en Thaïlande ou en Tunisie, par exemple, effectivement, et où là, il faut bien reconnaître qu'on est obligé d'avoir des intermédiaires, des gens qui sont donc des professionnels, on va dire, de l'information, et qui sont là pour aller normalement chercher l'information, la transmettre par quelque moyen que ce soit, en tout cas, et nous sommes là pour entendre ce qu'on a à nous dire. Mais bon, après, il faut aller voir plus loin.
On fait une première pause musicale.
Oui, c'était une. Ouais.
Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez appeler au 05 34 33 60 09 si vous avez des questions que vous pouvez poser donc à nos invités. On fera ça peut-être en fin d'émission, mais pour l'instant, on va écouter donc G. Scott Heron et une chanson appropriée, j'ai envie de dire. La révolution ne sera pas télévisée. Voilà, The Revolution will not be televised. C'était un vieux titre déjà des années 80. Peut-être que déjà on avait pensé à ça, à cette époque. Bref, on écoute ce son et on revient tout ça après sur Campus FM.
Super.
My name is Gil Scott Heron. My accomplices are, first from left to right, Eddie Knowles, a drummer for the Denny Zulu Dance Group, a drummer for the Simba Dancers, and a percussionist for a group called Black and Blues. The brother to my immediate left is Charlie Saunders of the Simba Dance Group and a former drummer for Loretta Parker. David Barnes, a singer for Black and Blues, will be heard later on in the evening. We'd like to do a poem for you called The Revolution Will Not Be Televised, primarily because it won't be. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Mendel Rivers to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look 5 pounds thinner. The revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on reports from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still lifes of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he had been saving for just the right occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so goddamn relevant, and women will not care if Dick finally screwed Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news, and no pictures of Harry Arm Women Liberationists and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, or Engelbert Humperdinck. The revolution revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
Voilà, donc on vient d'écouter Jill Scott Heron qui déjà lui aussi se posait la question de savoir si la révolution pouvait être télévisée ou pas, et si la télévision pouvait susciter chez nous peut-être le changement. On continue à penser à ça et à discuter de ça tous ensemble.
Voilà, donc vous êtes bien dans l'émission La Fabrique d'un autre monde possible, Attaque Toulouse en coopération avec Campus FM. Il est 17h20 et vous êtes sur 94 MHz. Alors on parle des médias ce soir, on a parlé de la perception des médias, et juste une petite introduction sur l'historique des médias. En fait, j'avais perdu ma page.
Pas de souci.
Les premières publications périodiques en France, elles naissent en 1631. En fait, c'est un dado que j'ai trouvé là, c'est Jean-Marie Charon qui a écrit ça et qui est un expert des médias, et c'est Les médias en France aux éditions La Découverte. Et en 1631, sous le titre La Gazette, son créateur c'est Théophraste Renaudot. Il fait partie des hommes qui gravitent autour de Richelieu. Et en fait, il bénéficie d'une exclusivité à perpétuité, d'imprimer et de vendre sa publication, ainsi que d'aides financières et privilèges d'utilisation de la poste royale. En contrepartie, un conseil de rédaction contrôle le contenu, au sein duquel siègent évidemment les proches du roi. Donc la première presse, c'est ça.
C'est un bon début.
Hein, voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? La Révolution française bouleverse le paysage et les structures de la presse. Dès l'ouverture des états généraux, il devient difficile pour le pouvoir d'interdire les journaux non autorisés. En fait, on assiste à une explosion après juillet 1789. Ce sont 218 titres publiés. Donc c'est énorme, hein. C'est colossal. Et il y a la publication donc en 1789 au mois d'août de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme, qui est que la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. C'est un bel article, hein. Voilà, donc reste à l'appliquer. Et que dire d'autre? Après, évidemment, il y a des périodes plus sombres. Période plus sombre, 1815-1848, l'appel à l'insurrection par la presse parisienne à la veille des journées de juillet a convaincu pour longtemps les politiques que l'influence des journaux sur le cours de l'histoire. Et donc la reprise en main par Napoléon, évidemment, je sais plus où c'est.
Oui, la confiscation des libertés, enfin bon, on a connu ça à plusieurs périodes de l'histoire.
Voilà. Donc tout ça pour dire que la presse, finalement, enfin les médias, à l'époque c'était la presse, mais c'est les médias, ont largement suivi le cours de l'histoire, quoi. C'est un lien permanent entre la liberté de la presse, la confiscation de cette liberté, et la multiplication de capacités d'information, de liberté de l'information, de foisonnement, avec la liberté politique finalement populaire, et la régression dans d'autres cycles historiques. Alors, à savoir où on en est aujourd'hui, finalement, est-ce qu'on est dans une période de régression suite à la mondialisation, suite à la confiscation, enfin, pas la confiscation, mais la concentration des pouvoirs? On se retrouve aussi avec une concentration des médias, probablement, qui est en parallèle. Donc, j'ai trouvé dans ce bouquin, et très intéressant, c'est ce parallèle-là qui est fait entre l'évolution des médias et l'évolution des capacités politiques citoyennes à faire avancer la société, finalement.
C'est-à-dire qu'on a eu, une confiscation à plusieurs périodes de notre histoire, mais peut-être on peut se poser la question, est-ce que c'est maintenant plutôt une période, on va dire, de limitation de la liberté? C'est-à-dire qu'on n'en est plus maintenant à interdire, encore que, on a maintenant des lois qui s'appliquent de plus en plus restrictives, mais on, plus quand même dans la limitation que dans la pure confiscation de la liberté d'imprimer.
Il y a aussi la problématique de se dire que bon, une chaîne, à partir du moment où elle n'est pas regardée, elle disparaît. Et c'est aussi un peu l'outil et discours du capitalisme, à savoir que bon, si demain plus personne ne regarde TF1, TF1 n'existe plus. Donc au final, si ce genre de chaîne continue à exister, c'est aussi parce que bah, elles sont regardées tout simplement. Et c'est à partir du moment où l'utilisation des médias, à qui ça servait en fait ? À quoi ça sert les médias ? Est-ce que ça sert à des intérêts privés ou à l'intérêt public ? L'information collective, l'opinion collective ou l'intérêt privé ? À partir du moment où il y a cette passation entre le domaine public et le domaine privé, on est passé aussi donc à un autre registre de l'information et à une autre forme de médias.
Bah, l'information est devenue une marchandise, en fait.
Voilà.
Voilà. Donc, à partir du moment où on décide de la marchandiser, elle va obéir à toutes les lois de marketing, de vente, etc. Et qui fait aussi que, donc là, j'introduis le premier point, qu'on puisse hiérarchiser les sujets et les choisir. Et qui fait que, en fait, à un moment, on va plus choisir les sujets qu'on arrive à vendre, qui font de l'audience, que des sujets un peu plus compliqués. Où il faut aller un peu plus dans la profondeur des choses, d'expliquer, de prendre le temps. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous regardez le JT de TF1 ou de France 2, c'est en fait le zapping permanent. C'est-à-dire en fait, en deux minutes, on va parler du Mali, on va parler pendant 1 minute 30 de la rentrée scolaire, et puis etc. etc. On n'a pas le temps de se poser, et donc on choisit des informations, ce qui fait que, ce que j'avais dit au départ, il y a des informations qui existent et d'autres qui n'existent pas. Ou aussi, il y a le choix des mots, on reviendra plus tard. Mais pour revenir à la chanson là, sur la révolution ne sera pas télévisée, il y a quand même un petit contre-exemple. Je dirais pas que la télévision ne sera pas télévisée, la révolution, mais aujourd'hui on est le 14 janvier, donc moi je suis franco-tunisien, alors je fais un petit coucou à tous les Tunisiens. Le 14 janvier 2011, donc il y a 2 ans, la révolution n'a pas été télévisée, mais elle a été facebookée, on va dire. Donc là aussi, il y a la hiérarchisation des médias qui choisissent les télévisions, etc. Elle n'est plus à l'ordre du jour, puisque il y a des canaux alternatifs, mais attention, parce que là, on voit, c'est pas le moment d'en parler, mais à force de multiplier les canaux, du coup, l'information se dilue, et donc il y a un danger, mais de toute façon, en fait, la révolution ne sera pas télévisée, mais elle peut être conduite par d'autres canaux alternatifs dont tu parlais tout à l'heure.
Tout à fait. Magique, tu avais une bande-son sur les médias d'aujourd'hui ?
On va écouter donc un témoignage d'une personne assez férue de musique et qui a décomposé en fait un jingle très connu, vous allez sûrement le reconnaître. On va donc écouter ça et puis on revient tout de suite après, ça dure 2 minutes. Faites-vous plaisir, écoutez.
Radio Campus Toulouse.
Bon, vous savez que le générique d'un journal d'info, il doit suggérer l'angoisse, le suspense. Alors vous cherchez une musique de film qui fait peur. Par exemple, Les Dents de la Mer, c'est une bonne idée. Elle a été composée par John Williams en 75. Personne n'ira penser que vous êtes allé chercher votre inspiration de ce côté-là. Alors dans la bande originale, il y a une mélodie qui est récurrente. Sachez la repérer, écoutez bien.
Ça c'est Les Dents de la Mer, hein ?
C'est ça. Voilà la mélodie. Voilà, vous isolez ce passage,
ouais.
Vous coupez les premières notes et vous changez un petit peu la tonalité. Vous montez de 3 demi-tons. On écoute ça. Voilà, ça c'est toujours Les Dents de la Mer. Maintenant on va faire plus angoissant, il faut ralentir toute la phrase, on maintient le rythme avec des contrebasses et des violoncelles, toum 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 toum, on ponctue avec des timbales, ça donne ça. Voilà, là il y a bien le mélange des deux. Il y a un peu Les Dents de la Mer et un petit peu les violons qu'on a fait monter. On baisse les cuivres, on monte les cordes, on fait une accroche avec un crescendo de violon, et puis surtout du volume, il faut que les murs tremblent de peur. Ça donne...
Voilà, place à l'information.
Excellent.
Excellent, merci Magine, c'était super.
Bon exemple. Ouais.
Voilà les médias aujourd'hui donc. Moi j'avais
revenir quand même un peu sur le fait effectivement que l'information est devenue une marchandise. Quand même, faudrait aussi rappeler que sur le traitement de l'information et de la façon, l'intention avec laquelle on traite cette information, il faut quand même dire aujourd'hui que la présence du fait divers dans l'information est quand même maintenant de plus en plus énorme, et notamment dans les chaînes télévisées dont on vient de parler, ne serait-ce que par le petit extrait qu'on vient d'avoir, où effectivement le fait divers est devenu quelque chose de régnant, on va dire, sur l'information, et en effet, à coup de, on va dire, de chez les personnes qui écoutent vraisemblablement ce genre de choses, de sentimentalisme qui finit effectivement par effacer tout intérêt, notamment pour l'information qui pourrait demander de la réflexion plus importante, type Mali ou Tunisie, par exemple, et qui du coup sont des sujets qui tiennent sur 30 secondes au lieu d'en tenir au minimum 5 minutes. Et qui réclamerait, là, je suis dans le sujet qui nous intéresse, indigné du PAF et CRIMED, en l'occurrence, hein, je rentre en direct dedans, parce que effectivement, là, il y a aujourd'hui un vrai problème qu'on voit au travers de la télévision, parce que c'est là où la question du règne du fait divers est la plus importante, mais c'est également le cas dans la radio, aussi. Ça l'est aussi dans la presse, mais de façon moins spectaculaire, on va dire.
C'est tout à fait ça. C'est justement à chaque fois qu'on s'aperçoit qu'il y a eu une déformation, une supercherie, un élément non objectif dans l'information, notre poil se raidit. C'est l'origine justement des appels des indignés du PAF, qui a été un faux reportage de TF1 sur des jeunes des quartiers, voilà, qui continue comme c'est la règle depuis des dizaines d'années de stigmatiser les habitants de certains quartiers. Donc l'information, elle est mise en scène, elle est information spectacle. On peut parler aussi, se dire pour c'est pas la pluralité de l'information qui fait la qualité de l'information. Par exemple, il suffit de regarder comment sont animées les chaînes de la TNT le soir à 20h30. On va avoir Enquête d'action, on va avoir 90 minutes d'action. Et l'idée, voilà, ça va être toujours de faire une surenchère dans les images, de déformer une réalité pour créer le suspense. On est dans le spectacle, tout à fait.
Et juste pour rebondir sur ce que tu disais, en fait, oui. Malgré tout, les faits divers dans la presse écrite sont existants, et en fait, c'est utilisé aussi pour vendre, pour reprendre ce que vient de dire notre camarade. Je peux t'appeler camarade.
Allez, ouais,
et par exemple, donc, un exemple que tu aimes bien, celui de la Dépêche du Midi. Donc nous, en fait, à CRIMED, donc l'antenne locale de Toulouse, en fait, on observe et on regarde la Dépêche du Midi, et en fait, on a regardé l'utilisation des images dans la Dépêche du Midi des faits divers. Alors, en fait, non seulement ce sont pas des images, des vraies images, ce sont des photomontages. Donc, par exemple, pour illustrer un cambriolage, on met en scène un gars où il y a écrit en dessous photo de la Dépêche du Midi, ou même quelqu'un qui bat sa femme, on met en scène une femme qui se fait battre par quelqu'un. Donc c'est aussi là, dans la presse écrite, c'est existant, faut pas le négliger. Donc je te tends la perche sur la Dépêche du Midi.
Ah oui, c'est vrai, c'est absolument vrai. Ça, j'avais oublié ce détail. Il y a quand même son importance, c'est qu'en effet, la capacité maintenant dans la presse, c'est de faire carrément une mise en scène. Quand on n'a pas l'image, on est capable de la créer, pour effectivement illustrer un fait divers un peu du type de ce que certaines presses nous avons connues, que nous connaissons encore, qui s'appellent détectives ou d'autres de ce type, mais qui ont fini par déborder sur cette presse qui aurait dû être respectable pendant un certain temps.
Après, il y a aussi l'idée que, comme disait Noam Chomsky, l'information, enfin la peur, c'est aussi un moyen de manipulation de la masse et de contrôle de la masse. Et puis c'est vrai qu'au bout d'un moment, bah, quand on regarde à qui appartient les groupes de médias et à qui surtout ils servent, on se rend compte en fait que c'est aussi un outil politique. Faire peur, susciter la peur pour après retrouver les mêmes thèmes dans les campagnes présidentielles. T'en parlais tout à l'heure, Jérôme. Voilà, les gars des cités, typiquement, bah, c'est clair que c'est un des thèmes récurrents de toutes les campagnes présidentielles, et que pour ça, il faut du lien, il faut faire quelque chose pour que. Il faut un outil pour que les gens croient en ça, hein, et pour susciter cet intérêt-là, et c'est vrai que les médias sont.
La peur ou toute autre forme de manipulation. J'allais citer aussi un deuxième exemple, ce qui s'était passé un reportage de TF1 sur le vote de la loi Hadopi en avril 2009, où ils avaient acheté une image d'archives où ils l'avaient récupérée dans leur catalogue, mais qui montrait une assemblée pleine, bondée à craquer, des députés vent debout, en train d'applaudir l'adoption en première lecture du projet de loi. Il s'est avéré que pour y avoir été, il y avait pas plus de 16 députés dans la salle. Ils étaient bien fatigués au point de à peine lever la main. Donc ce n'est pas la même image. On ne raconte pas la même histoire en montrant cette image ou en montrant une assemblée pleine. Mmh. Et le CSA, justement, avait à cette occasion exigé de TF1 et de Canal+, d'ailleurs, qui était aussi fautif, de communiquer ses excuses. Et voilà. Mais n'empêche qu'on peut se poser la question de savoir quels étaient leurs intérêts. Et il y en avait. Et donc, c'est pris en flagrant délit, mais il y a plein de fois où on laisse passer justement ça, d'où l'intérêt d'avoir des associations qui regardent ça tous les jours, avec un œil critique.
Ouais, bien sûr.
Et puis Guy Debord aussi, peut-être, la société du spectacle. C'est vrai qu'à la base aussi, les médias sont là pour divertir et pour accaparer des temps de cerveau. C'est vrai que cet outil-là aussi.
TF1, si on reste dessus.
L'ange de bord et le lait, là.
Le temps de cerveau disponible. Oui. On peut aussi réfléchir au 19e siècle, c'était aussi une époque où on se posait la question du financement des médias. Et la publicité a toujours fait mauvais ménage, parce que la publicité, tout le monde conçoit que c'est un mensonge et on accepte ce mensonge. La lessive qui lave plus blanc que blanc. On accepte ce mensonge et on la met, on la lit à côté d'une information qui, elle, doit être objective. Chez TF1, encore une fois, vous verrez jamais un reportage, par exemple, contre certains fast-foods, puisque ça représente un budget de publicité de plusieurs dizaines de millions d'euros par an. Et que si on commence à les embêter, c'est des coupes budgétaires. Donc là aussi, c'est pas forcément un bon mariage. Et il y a peut-être aussi, on est peut-être aussi à une époque où on doit se reposer la question du financement.
Voilà. Ouais. Je me pose la question de pourquoi finalement on a ces dérives-là. Alors tu as parlé, Magie, de la raison politique pour manipuler, pour orienter politiquement les foules, les citoyens. On a parlé aussi du divertissement et de comment faire vendre, des intérêts commerciaux associés à la publicité, évidemment, aux annonceurs. Moi, je voudrais citer quelques chiffres quand même. C'est qu'en 30 ans, la consommation d'informations par chacun d'entre nous a augmenté de 350%. Et dans le même temps, les abonnements et les achats de journaux papier ont chuté de 60%. En gros, chaque année, la presse perd 5% de lecteurs et 12% de recettes publicitaires. Ça, c'est pour la presse. Et en fait, associé à ça, il y a quoi ? Il y a la révolution, la mutation numérique. Donc le changement de nature du journalisme. Les journalistes aujourd'hui, ils font plus de reportages quasiment, ils font plus d'enquêtes sur le terrain. Ils sont surtout finalement
des supports,
des techniciens de l'information. C'est-à-dire qu'ils font du tri, de la mise en relief, de la hiérarchisation.
Et juste, j'ajouterais l'exemple aussi de l'AFP, parce qu'à la base de l'information, il y a toujours une dépêche de l'AFP. Et ce qui se passe effectivement, c'est qu'aujourd'hui, même dans les écoles de journalisme, quand tu dis technicien de l'information, c'est ça, c'est-à-dire c'est recoupé et remasteriser en quelque sorte les dépêches AFP, et on se retrouve finalement avec des articles qui se ressemblent tous et qui n'ont pas ce pluralisme comme on aurait si il y avait des journalistes qui allaient sur le terrain. Donc c'est un peu pour rejoindre, il y a aussi les conditions dans lesquelles sont fabriquer l'information.
Tout à fait. J'ai lu que je crois que c'est à Chicago, je sais plus bien, je crois que c'est aux États-Unis, c'est sûr, je crois que c'est à Chicago. Il y a une agence de communication qui propose de fabriquer automatiquement des articles. C'est-à-dire, on lui donne quelques sujets et ils ont une base de données infernale sur toute la zone d'influence où ils travaillent et ils écrivent automatiquement. C'est des logiciels qui fournissent, paf, l'article.
C'est dangereux.
La clé en main.
De toute façon, oui. On va écouter le deuxième micro-trottoir.
En effet.
Ouais. Et on revient tout de suite après ça.
Pensez-vous que les médias peuvent être objectifs ?
Très très peu, il faut recouper. Et parce que aussi, les trois quarts sont tenus par
par le lien économique, c'est-à-dire que s'ils passent pas de la pub, eh ben ils peuvent pas faire leur émission et que beaucoup, il y a qu'à voir tous les grands médias de presse et de l'image sont tenus par des grands financiers qui ont leurs propres opinions et leurs propres intérêts. Donc à partir de là.
C'est toujours biaisé. Enfin, je veux dire, il n'y a rien d'objectif. On n'est pas là pour vérifier. C'est des informations hyper importantes que personne ne peut avoir. Personne lambda comme nous. Beaucoup d'informations, on ne peut pas en avoir la vérification, quoi.
La télé, pas trop, non. Enfin, on doute un peu que la télé soit objectif. Après, les journaux, on pense plus déjà, mais la télé, le journal. Le journal à 20h, par exemple, c'est, à mon avis, c'est quand même bien manipulé. Voilà.
Certains médias sont peut-être plus ou moins influencés, soit d'un point de vue politique, soit d'un point de vue économique. Et on a donc, il faut vraiment faire un choix entre les types de médias qu'on choisit. Et après, à l'intérieur de chacun des médias, pouvoir s'organiser et trouver le média qui nous correspond le mieux et auquel on pense qu'il est le plus objectif.
C'est vrai qu'il faut écouter plusieurs choses, sinon vous en sortez pas. Moi, pas une crédibilité à 100%. Alors... Après, oui, sur des gens qu'on connaît, parce qu'on a lu des choses à côté, parce que oui. Mais bon, après, il faut choisir, quoi.
Parce que j'avais entendu, par exemple, que celui qui fait direct matin, c'est un millionnaire, donc il peut faire passer l'information qu'ils veulent. Donc, bon, c'est pas très objectif, quoi. On voit ce qu'ils veulent voir, quoi.
Je sais pas, mais ça m'étonnerait un peu, surtout pour les grandes chaînes de télé, tout ça, parce que je pense que c'est un très très bon moyen en fait pour faire passer plein de messages. Et du coup, moi je regarde pas trop, mais après ça dépend des médias. Il y en a forcément qui sont objectifs. Ouais.
Je pense qu'ils nous disent ce qu'ils veulent nous dire et on croit ce qu'ils nous disent. On est un peu obligé parce qu'on n'a pas d'autres informations. Donc voilà. Mais après, on n'a pas le choix, quoi. Donc voilà. Pour moi, c'est ça. Genre, c'est pas vraiment objectif.
Oui, je pense qu'ils peuvent être objectifs. Après, des fois ils sont subjectifs. Ça dépend en fait, au cas par cas, ça dépend. Voilà. Mais quand même, sur certains sujets, ils peuvent être objectifs. Et quand ils ont pas, quand ceux qui traitent l'information, on va dire, ne sont pas jugés partis, quoi. Voilà, quand il n'y a pas un intérêt supérieur qui les empêche de parler. Moi je pense, après je peux me tromper, qu'il y a des journalistes qui sont honnêtes et intègres et qui disent des choses, tu vois.
Ils peuvent l'être, ils devraient l'être. Je pense qu'il y a des officines qui le sont, plus ou moins. Il y a le poids de l'économique qui pèse, à qui appartiennent les rédactions, tout ça. Bon, donc du coup, faut savoir un peu lire entre les lignes. Je pense, mais bon, il y a quand même des moyens de découvrir quelques vérités.
Super. Merci Renaud pour les micro-trottoirs. C'est
plaisir.
Moi, ce que je retiens là, c'est qu'il n'y a pas une ambiguïté entre objectivité et sérieux du journaliste qui fait
ambiguïté,
bien son travail.
Ambiguïté dans l'attente aussi, je veux dire, parce qu'effectivement, manifestement, semble-t-il, beaucoup attendent de l'objectivité. Des médias.
N'est-ce pas une erreur d'attendre l'objectivité des médias?
Oui, bon, d'autres vont réagir. Moi, je dirais, en ce qui me concerne, je ne pense pas aujourd'hui qu'il faille attendre puis de l'objectivité de la part des journaux. Des journaux ou des médias en général. Si effectivement chacun se disait journaliste, en tout cas, je veux dire, appartenir à un courant de pensée, par exemple, pour faire quand même très 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 large, tout irait bien. C'est pas un problème de se dire que bon, il existe Le Figaro, qu'il existe Rue 89, qu'il existe ce qu'on voudra ou Politis. Mais qu'on sait justement, et c'est à partir de là qu'une opinion peut se former.
Donc ils sont subjectifs. On parle bien là de journaux subjectifs,
bien sûr,
et reconnus en tant que tels. Alors que là, les personnes interrogées finalement recherchent de l'objectivité, ce qui est en fait une erreur. Il y a une erreur de compréhension, je pense, dans le sens du mot et dans ce qui est attendu des médias.
Et du traitement de l'information, c'est-à-dire de la formation de leur opinion. Faut pas attendre, je pense que nos amis vont en parler aussi, mais il faut pas attendre de la part des journaux de nous pondre, on va dire, une conduite de l'existence, de ce qu'on doit penser, c'est nous qui devons nous former cette opinion. Enfin, ce que je dis là, en plus de ça, est quand même corroboré par l'éducation française, l'éducation nationale, la formation aux humanités, ces vieux comme Hérode, si je puis dire ce que je suis en train de dire là. Hein.
Ouais, et après, en fait, le but aussi, ce serait que les gens puissent en fait justement repérer s'il y a de la subjectivité et dans quel sens elle va.
Donc, exactement.
Et à partir du moment où on relie ça avec la possession, la propriété des médias, qui possède les médias, donc il y a eu un micro-trottoir là-dessus, il y a une personne qui a dit, de toute façon, c'est tous les mêmes qui possèdent les médias, il n'a pas tort. En fait, vous allez voir, par exemple, dans le film Les Nouveaux Chiens de Garde, vous avez en fait ce qu'on appelle, ils appellent ça le PPA, le Parti de la Presse et de l'Argent. Et donc vous avez un espèce d'organigramme qui possède qui, quoi, et en fait, vous avez regardé, en fait, finalement, c'est toujours les mêmes propriétaires qui possèdent ça. Et donc, nous, à Crimed, par exemple, là, je parle au nom de l'association, nous avons des propositions contre la concentration des médias. Rappelons-le que la concentration des médias est arrivée à l'ouverture des capitaux pour les entreprises privées dans les années 80. Donc vers 83-84, donc où il y avait donc Monsieur Mitterrand président, et donc à partir de ce moment-là, il y a eu ce phénomène de concentration des médias où on a plusieurs en fait on va dire des capitaines d'industrie qui possèdent ces médias-là, et donc nous on propose de mettre en place des dispositifs juridiques, techniquement c'est faisable, qui puissent en fait de dire voilà, à partir d'un certain seuil, et surtout si vous avez des marchés publics avec l'État, vous n'avez pas le droit de posséder des médias parce que vous pouvez les utiliser à vos fins. Voilà.
Jérôme, je crois que tout à l'heure, tu as parlé d'objectivité, comme quoi c'était une illusion.
Oui, et je pensais justement à l'instant que, par exemple, on peut se dire que les chaînes d'information, LCI, ITélé, BFM, peuvent avoir un traitement un peu plus, entre guillemets, hein, je mets bien les guillemets, objectif de l'information, plus brut. Mais aussi, il faut se poser la question, par exemple, et ça arrive quand il y a des crises ou quand il y a des débats, les experts qui viennent sur ces plateaux, là aussi, mentionner qui les rémunère, de quoi ils vivent, etc., etc. Et on serait bien surpris d'apprendre que beaucoup de choses sont liées. Et c'est pour ça qu'on revoit toujours les mêmes et que l'opinion, elle est... On la tue un peu dans l'œuf, c'est-à-dire que sur un sujet, on va tout de suite présenter les oppositions, alors qu'il n'y a pas forcément ce type d'opposition-là, et que le sujet peut-être porte ailleurs, et que la problématique porte ailleurs. Ouais. Donc c'est un biais dans l'information.
Ouais. Donc moi, ce qui me gêne finalement, c'est que l'information est présentée comme objective, parce que c'est sa présentation finalement, la mise en œuvre, mise en forme et tout. Mais en fait non, elle doit pas être vue comme objectif. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des journalistes derrière qui sont intègres, mais ils sont quand même marqués par leur propre histoire, par leur formation, par les gens qui les emploient, etc., etc. Je pense que c'est ça, il faut vraiment insister sur ce point-là. Est-ce qu'on envoie maintenant le micro-trottoir suivant, ou comment vous voyez les choses, chers camarades?
Comme vous voulez, allez, on fait ça. Donc allez, on va écouter le dernier micro-trottoir de Renaud sur donc les médias et voilà.
Ouais.
J'aurais aimé savoir quelle influence vous pensez que l'actualité et son traitement peut avoir sur la vision du monde de chaque citoyen.
C'est la maîtrise de l'information est vraiment un enjeu de pouvoir aujourd'hui. Celui qui maîtrise l'information et qui maîtrise donc les médias a un pouvoir réel sur les sociétés. C'est à démontrer, redémontrer, et c'est plus que vrai.
On nous fait avoir peur de certaines choses qui sont pas forcément peur. Par exemple, je prendrais l'exemple de l'islam. On nous montre l'islam vraiment à voir. On dirait que c'est la pire religion du monde, c'est que c'est le mal partout. Alors que bon, pas forcément. Il y a juste une part infime. Mais quand on regarde pour le christianisme, c'est pareil. Il y a des... Enfin, par exemple, le tueur en Norvège, c'était un chrétien. C'est pas pour ça qu'on l'a qualifié de terroriste. Et on a vu tous les chrétiens comme des terroristes, enfin voilà quoi. Donc c'est vrai, c'est vraiment de la manipulation quoi.
Oui, c'est sûr que, enfin, forcément, parce que ben, toutes les idées qu'il y a à la tête de d'un pays, etc., elles sont véhiculées justement par les médias. Et je pense que, enfin, en tout cas, dans les hautes sphères de la société, je sais pas trop ce qui s'y passe, mais j'imagine que il doit y avoir quand même souvent une volonté de maîtrise de l'information pour pouvoir faire passer des messages des messages qui leur paraissent importants de faire passer et pour peut-être nous torturer l'esprit. J'en sais rien, je sais pas trop ce qu'ils ont dans la tête, ces gens-là, parce que ça me paraît pas très clair des fois, mais en tout cas, oui, c'est sûr. Ouais. L'actualité nous jette une image, quoi. C'est par l'actualité qu'on voit le monde, entre guillemets. C'est ça. Et, enfin, l'actualité, on va dire que les moyens de communication, ça va être nos yeux pour voir à peu près ce qui se passe.
C'est, en gros, c'est l'État un peu qui gère les médias, donc à travers ça, ils font ce qu'ils veulent, ils nous manipulent complètement. Donc, bon. Moi, c'est ça en fait. Ouais. Je pense vraiment que les médias nous manipulent.
C'est vraiment une arme, ouais, de pouvoir. Ouais. Puis avec le nombre de gens qui regardent la télé tous les soirs et en permanence, c'est évident qu'on leur dit ce qu'on veut et qu'ils le croient. Du coup, on peut manipuler l'opinion publique sans aucun problème grâce à ce genre de choses. Je pense.
Bah que les médias, enfin l'information, elle peut être utilisée quoi pour amener les gens à avoir certaines formes de pensée quoi.
Bah une énorme. C'est-à-dire qu'on peut mettre en scène n'importe quelle information, la biaiser, la retourner dans tous les sens, et elle peut diriger la pensée d'une majorité de la population, comme TF1 par exemple. Voilà. TF1, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Ils montrent ce qu'ils veulent, les gens, les abrutis, le bof moyen, ben il avale, quoi. Il va bosser, il rentre chez lui, il avale. Voilà. Et l'information est biaisée.
Je pense qu'aujourd'hui, c'est la manipulation des masses, quoi. Elle passe par là, elle passe par les médias. Il n'y a qu'à voir une campagne politique comme elle est faite. C'est que du jeu de rôle, quoi. C'est aujourd'hui de la manipulation. On manipule les masses. Donc c'est aux masses de s'informer correctement. Et ça devrait être nos écoles qui devraient former les gens pour apprendre vraiment ce que c'est que d'être intelligent, quoi. Parce que, en fait, c'est ça, la base, c'est ça. Derrière, il y a des choses où les médias ont une importance vitale. Ils devraient nous informer, point. Et aujourd'hui, on détourne l'idéologie. N'importe quelle idéologie peut faire passer n'importe quoi. Mais après, bon, c'est la société qui le veut. Hein. Aujourd'hui, il y a du boulot, quoi. Et c'est l'école que ça se passe, quoi. Je pense que si on apprenait aux enfants à apprendre, ça serait beaucoup mieux, quoi. Après, c'est... on en est loin, quoi.
Et ben, les médias qui sont pas très objectifs ont plutôt tendance à donner qu'une seule version des faits. Et c'est vrai que ça encadre vachement la réflexion des gens et ce qui limite beaucoup la prise de recul par rapport à ces infos. Et il y a beaucoup beaucoup de préjugés, des choses comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut, je pense, solliciter pas mal les médias qu'on pourrait appeler alternatifs. Et il y a des web radios, il y a des webzines, il y a pas mal de journaux aussi hebdomadaires ou mensuels qui traite les faits, non pas en termes de faits divers, mais qui prennent du recul par rapport à ces faits et expliquent, ou tentent du moins d'expliquer, en étant le plus objectif possible, les raisons et les conséquences de ces faits, quoi.
Bah, une influence majeure, si tant est qu'on est un peu influençable, je dirais. Justement, c'est ça.
Il y a des thèmes qui sont porteurs, qui créent la panique, la dépression, la sécurité, par exemple. Il y a des moments plus sensible que ça, une approche d'élection, par exemple, on voit fleurir certaines thématiques.
Voilà, donc c'était le dernier micro-trottoir donc de cette émission, un panaché donc de témoignages tous différents les uns que les autres, mais intéressants.
En faisant ce micro-trottoir, ce que je trouvais intéressant, c'est voir la diversité évidemment des réponses, mais c'est aussi que les gens sont vraiment conscients à la fois que l'information n'est pas forcément de qualité, à la fois elle est biaisée, et ils sont aussi conscients que l'information et son traitement peut avoir une influence sur la vision du monde des gens. Donc ça, c'est un constat qui est vraiment positif, parce que voilà, les gens sont conscients, mais ce qu'on a remarqué aussi dans les échanges pendant le micro-trottoir, c'est que les gens sont très peu dans la démarche de trouver des solutions et de trouver des alternatives à cette problématique qui est... qu'ils le disent eux-mêmes, très importante. Donc voilà ce qui était intéressant. Les gens sont conscients du problème des médias, mais les gens ne sont pas forcément encore dans la démarche de trouver des alternatives et des solutions. Voilà. Bayrem, tu voulais parler d'un exemple peut-être?
Oui, un exemple rapidement sur le choix des sujets et leur hiérarchisation. En fait, c'est l'histoire de Notre-Dame-des-Landes. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, en fait, donc la mobilisation a commencé à peu près vers le mois d'octobre, voire même fin septembre. Et en fait, dans les grands médias de masse, Notre-Dame-des-Landes, on n'en a pas entendu parler, entre octobre jusqu'à à peu près mi-novembre. Ce qui veut dire en fait que pendant un mois, cette information-là n'a pas existé. Donc ce qui se passait à Notre-Dame-des-Landes ne se passait pas en fait de fait parce que les médias n'ont pas choisi de le montrer. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, les médias alternatifs, justement les solutions, moi j'en avais entendu parler parce que je connaissais des militants, etc., qui montaient là-bas. Dans les médias, j'ai observé, il n'y a que le Canard Enchaîné qui a commencé à en parler, etc. Et puis des quelques les médias associatifs alternatifs. Et du coup, ce qui se passe, c'est que justement le choix du fait divers, maintenant on l'utilise même pour présenter les mobilisations importantes. Et donc on a choisi le fait divers par rapport en fait à la fille là qui a fugué de chez ses parents, je sais pas quoi, là qui est partie à Notre-Dame-des-Landes. Donc là on voit bien, par exemple, Notre-Dame-des-Landes, ça n'a pas été traité sur le fond, sur socialement, sur ce qui se passe, qu'est-ce que c'est cette mobilisation, mais toujours par le biais du fait divers. Et c'est pour ça en fait qu'il y a plein de solutions, justement parce que les gens se posent. Et là je laisse la parole.
Surtout quand on pense que au sujet de Notre-Dame-des-Landes, que quand même le projet existe depuis 40 ans. D'accord. Donc, ce qui veut dire que non seulement ce que tu dis est tout à fait juste par rapport à aujourd'hui et au mois de novembre dernier, il faut quand même penser qu'entre le novembre dernier et il y a 40 ans, on avait quand même largement le temps, régionalement parlant déjà sans doute pour commencer, mais au niveau national, d'avoir au moins entendu parler un peu de cette histoire. Et personne n'en a entendu parler.
Et donc nous, oui, très pragmatiquement, nous pensons qu'il y a des solutions, et en tout cas, on essaye d'en proposer certaines. On a lancé, il y a quelques mois, un appel pour envoyer un citoyen au CSA. Cet appel a été signé par plus de 6500 personnes aujourd'hui, donc qui reçoit un engouement certain. Et donc nous, voilà, donc on pense que ça peut passer et ça doit passer par les organismes de régulation qui existent déjà. Savoir que les citoyens savent pas comment changer les choses, comment remettre les médias à leur place, mais le pouvoir politique, justement, contrairement à d'autres sujets comme sur l'économie, a toujours gardé la main. Le pouvoir politique donne les fréquences pour les chaînes, les nouvelles chaînes TNT, sans un cahier des charges précis, justement sur la déontologie de l'information. Donc il y a toujours un moyen de pouvoir à un moment forcer à signer une charte de déontologie. Il y a les reconductions automatiques, justement, d'attribution de fréquences de TF1. Il y a les aides à la presse, etc.
La même chose sur la radio. Hein.
Et la même chose sur la radio. Donc l'État a les moyens, s'il le souhaitait vraiment, de faire bouger les choses. Voilà, c'est une simple question de volonté politique.
Au passage, les aides à la presse, je crois que c'est 125 millions d'aides directes et 2 milliards d'aides indirectes.
Voilà.
Et où est-ce qu'on... C'est un détail, quoi.
L'aide de la presse du contribuable, hein.
L'aide de l'État à la presse.
Oui, donc c'est l'argent du contribuable. Bien sûr. Ouais.
Où est-ce qu'on peut signer cet appel des indignés du PAF?
Alors, c'est tout simple, il suffit de se rendre sur change.org/uncitoyen au CSA. Voilà, vous l'écrivez sans espace et vous le trouverez. Il y a aussi un groupe Facebook que vous pouvez trouver en recherchant citoyen au CSA. Et pour rappeler que le président de la République, François Hollande, et le Premier ministre Jean-Marc Ayrault avaient signé un appel en 2004, justement pour que l'information, selon les propositions qu'on avait fait en tant que indigné.
Moi, je voulais quand même ouvrir une parenthèse et puis après je vous laisse le micro pour conclure. C'est l'histoire du buzz aussi. En fait, on est arrivé à un stade où le buzz peut être aussi une solution en fait d'interpellation des consciences de la masse, et on le voit bien avec des activistes comme Greenpeace ou les FEMEN qui ont compris en fait que oui, cet outil peut être aussi utilisé pour susciter l'intérêt de la conscience des masses.
C'est vrai, je veux juste dire aussi que les éditeurs de contenu s'emparent également des réseaux sociaux en ce moment. Donc ils sont en train évidemment, la presse, enfin les tenants de la presse sont conscients de ça et sont en train financièrement d'en prendre le contrôle. Donc, il y a...
pour finir Bayram, tu voulais parler sur Acrimed. Oui, donc Acrimed, en fait, c'est une association qui a été fondée en 1996, donc il y a déjà 17 ou 18 ans, donc qui est pour en fait qui est née à la suite des mouvements de grève de 1995. On a remarqué en fait que le mouvement social n'avait pas de porte-voix dans les médias, et donc nous on est pour une transformation radicale au niveau des médias. On a des milliers d'adhérents, en fait on a un site internet qui s'appelle acrimed.org, où il y a des milliers d'articles en fait, où on a déjà fait plein de travail depuis 1996 sur les sujets. Et donc pourquoi je dis qu'on est pour une transformation radicale pour les médias, par exemple nous on trouve que l'initiative des indignés du PAF, c'est une initiative sympathique qui est bien, qui apporte beaucoup de gens au niveau de la critique des médias, mais nous on est pour une transformation en profondeur. Par exemple, nous on croit pas au CSA. Nous on veut transformer le CSA en un conseil national des médias, où en fait, parce que le CSA aujourd'hui il y a 9 membres dont les 3 sont nommés par le président, 3 par le président de l'Assemblée et 3 par le président du Sénat. Donc en fait de facto il est relié au pouvoir politique, de que ce soit les deux partis, l'UMP et le PS. Donc quand il y a un conseil national des médias où il y a les usagers, les journalistes surtout, ouais, et ceux qui travaillent dedans, eux ils seront en fait plus à même d'orienter les médias, de donner les bonnes décisions que le CSA.
Ok, c'est l'Acrimed qui aura eu le mot de la fin pour cette donc émission. Jean-Michel, un dernier mot.
Je voulais juste peut-être parler d'un numéro spécial qu'a fait 21 ce mois-ci, qui est sorti jeudi dernier, oui, et qui est accompagné d'un livret de 21 pages sur un manifeste sur le journalisme. C'est ouais, excellent, à ne pas rater.
Le vrai journalisme, il parle de vrai journalisme. Saint-Exupéry, donc l'éditorialiste de cette revue, parle
exactement,
de vrai journalisme.
Je voulais remercier Jérôme et Bariem, de Les Indignés du PAF et d'Acrimed respectivement, de nous avoir rejoints pour cette émission, qui était une fois de plus trop courte.
Oui.
Et Jean-Louis et Renaud m'avoir aidé à la préparer.
Le 4 février, salle du Sénéchal, 20h30, Acrimed organise une soirée donc avec Gilles Balbas, Anne-Cécile Robert du Monde Diplo pour justement quel journalisme pour le 21e siècle.
Et merci à tous Facebook en tout cas pour cette émission. Rendez-vous dès lundi prochain pour les émissions de Réminiscence, et puis donc dans un mois pour les émissions de La Fabrique et d'Attaque. Merci à tous. Bonne soirée, bonne semaine. Restez vigilants et informés.